Trainville PM, l'international, avec Loïc Tassé.
Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Ce qui se passe en Grande-Bretagne présentement, c'est de la politique de très, très haute voltige.
C'est très dur. J'ai vu la conférence de Mme Theresa May qui vient de se terminer.
Et la première ministre
de Grande-Bretagne. Et elle dit, je vais présenter le projet que j'ai soumis à mes ministres. Je vais le présenter au Parlement et ça va passer.
Donc, elle dit, l'accord que j'ai négocié pour sortir la Grande-Bretagne de l'Europe, je vais réussir à le faire passer au Parlement.
Dit, c'est dans l'intérêt de la Grande-Bretagne et on n'a pas d'autre accord et il vaut mieux ça que rien du tout. Sauf qu'elle avait dit le contraire, qu'il valait mieux ne pas avoir d'accord qu'avoir un mauvais accord. Dans cet accord-là, il y a des choses qui choquent en ce moment beaucoup d'Anglais. Entre autres choses, il y a une reconnaissance de la Cour européenne qui demeure. Entre autres choses, l'Irlande du Nord, dont on parlait hier, l'Irlande du Nord demeure dans l'Union européenne. Entre autres choses, l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne, ne va pas pouvoir négocier des accords économiques avec d'autres pays avant plusieurs années parce que tout ce Brexit va s'étaler sur plusieurs années. Et ça part très mal.
Écoute, ça veut dire que le Canada ne pourrait pas signer une entente de libre-échange?
Pas immédiatement. Dans quelques années, peut-être.
Parce que c'est dans les cartes, ça.
C'est dans les cartes, mais plus tard. Et ça part très mal parce qu'il y a eu énormément de démissions au sein même de son conseil.
Elle a perdu 5 ministres.
Oui, dont la personne qui était responsable des négociations avec le Brexit. Et des gens qui ont dit, écoutez, c'est une menace pour l'unité territoriale de la Grande-Bretagne, tout ça. Et en fait, ça respecte pas le résultat du référendum. D'autres disent, comme je te l'ai dit hier, ça transforme la Grande-Bretagne en état vassal. Donc, on va voir ce qui va arriver. Il faut d'abord qu'elle demeure en poste.
Mais voilà.
Il y a des gens qui sont contre elle et qui disent, écoutez, on va la faire tomber. Ça prend 48 signatures de députés.
Pour conservateurs. 48 députés conservateurs qui demandent un vote sur son leadership.
Exactement. Et ça risque on ne sait pas si ça va arriver. Il y en a qui pensent que ça va être bien proche, en tout cas.
C'est comme ça que Maggie Thatcher s'était fait sortir.
Oui, et ça se pourrait que Theresa May subisse ça. Si elle passe à travers ça, le 25 novembre, il y a un sommet des pays européens. Ils devraient accepter. Ils sont contents. Hein? Merkel a dit qu'elle était très contente. Édouard Philippe, le premier ministre français, a dit oui, c'est un grand pas, etc. Ça devrait passer. Mais ensuite, probablement après Noël, il faudra qu'elle fasse voter ça au Parlement. Et il faudra donc que des députés travaillistes, donc qui sont dans l'opposition, votent aussi pour ça. Parce que avec sa coalition, elle n'a pas la majorité pour faire passer ce Brexit tel qu'il est actuellement.
Et ce vote au Parlement, à la Chambre des communes britannique, ce serait quand? Est-ce qu'on le sait?
Écoute, ça serait dans les prochains jours. Je pense que c'est quelque chose qui arriverait assez rapidement.
En tout cas, si elle perd ce vote, moi, je pense qu'elle n'aura pas le choix que de partir.
Hein. Ou c'est des élections générales.
Hein. Ah, il y a ça aussi. Bon, parle-nous de ce rapport du Congrès américain qui conclut que les États-Unis, s'il y avait une guerre là, contre la Russie ou la Chine, les Américains la perdraient.
Auraient des risques très forts de la perdre. Oui, parce que les Américains ont perdu, et c'est un comité non partisan qui a fait ça. C'est un comité indépendant, c'est le comité du Congrès qui dit, écoutez, ça va pas bien notre affaire, on a perdu énormément d'avancées, nos avantages technologiques dans les domaines scientifiques et technologiques. Oui, s'il y avait une guerre contre la Russie et contre la Chine, on aurait de fortes chances de la perdre. J'ai dit, et j'aurais dû dire, ou contre la Russie ou contre la Chine, on aurait des pertes qui seraient insoutenables, probablement.
En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'une guerre sur deux fronts serait très difficile à gagner.
Même pas. Ils disent sur deux fronts, ils disent on la perdrait.
Sur deux fronts, on la perd.
On la perd. Sur un seul front...
Contre la Russie ou contre la Chine, on n'est pas sûr de la gagner.
Exactement.
Même si le budget militaire américain...
a été augmenté.
Ben, puis si je ne m'abuse, le budget militaire américain... actuellement, il est aussi élevé que celui de la Russie et de la Chine combinés.
Oh, bien plus que ça. Celui de la Chine et de la Russie combinés arrive à quelque chose officiellement comme 250 milliards de dollars.
Alors que les Américains, c'est
700.
On
est à plus de 700
milliards.
À 700. Donc, c'est comment beaucoup plus élevé. C'est parce qu'on investit. D'abord, ça coûte plus cher. Hein. Un soldat américain coûte plus cher qu'un soldat chinois.
Oui.
Et les équipements aussi. Mais plus que ça, en fait, c'est qu'on a investi partout, mais on n'a pas investi exactement là où il fallait, en particulier dans la recherche et le développement. Et c'est là où ça fait mal. C'est sûr que le comité fait une trentaine de recommandations. Il dit, entre autres, écoutez, il faut d'abord qu'on ait davantage de tanks, plus de pièces d'artillerie. Il faut renforcer notre marine, notamment les sous-marins. Il faut plus de forces aériennes, plus de ceci, plus de cela. Oui, mais le fond du problème, c'est qu'avec les nouveaux armements, les États-Unis ont perdu leur avance technologique qui était insurmontable, imbattable.
Et dans certaines catégories. Dans plusieurs
catégories.
C'est ce que le
rapport conclut.
C'est ce que le rapport conclut. La technologie américaine
tire de l'arrière. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Moi, je lis des rapports du Congrès depuis des années. Et la date butoir, c'est 2025. Vers 2025, les États-Unis vont avoir la même technologie militaire que la Chine, que quelques autres pays.
OK. Une minute.
Oui.
L'Arabie saoudite, le prince héritier, finalement...
Dédouané. C'est pas de sa faute.
C'est pas de sa faute. Il n'y a rien à voir avec la mort de Khashoggi?
Rien du tout. Oh non, non, non. C'est ce que le procureur d'Arabie saoudite a dit.
Une voix neutre,
Oui, complètement. Le coupable, c'est le général Ahmed Al-Assiri. C'est lui qui a dit il faut que Khashoggi soit ramené de gré ou de force en Arabie saoudite. Il n'aurait jamais dû dire ça. Il a été renvoyé. Mais les vrais coupables, c'est les hommes qui étaient sur place. On les appelle des négociateurs, figure-toi, aussi cette bande d'assassins. Ils ont dit, c'est le chef des négociateurs qui a décidé de tuer Khashoggi. Donc lui, oui, il y a 5 personnes contre qui on requiert la peine de mort. Les assassins seraient assassinés. Il y en a 11.
Exécutés.
Mais c'est un régime de terreur, etc. Tu fais bien de mentionner ça, parce que le fond du problème, c'est ça. C'est comment est-ce que des démocraties peuvent toujours coopérer avec ce régime de dictateurs sanguinaires qui manipule l'islam à l'échelle mondiale. Et quand Trudeau dit, vous savez, on va garder des contacts économiques, on va pouvoir faire pression. Quelle hypocrisie, quel enfantillage. Ouais. Le Canada pourrait très facilement couper les liens.
Le Canada devrait être le premier, devrait prendre le leadership, je le dis. Mulroney avait pris le leadership sur l'Afrique du Sud avec d'autres. Canada, Trudeau devrait faire la même affaire avec l'Arabie saoudite. Et sais-tu quoi? Ça pourrait être un héritage très important de son passage comme premier ministre. On doit s'arrêter là. Mon cher Loïc, à demain.
À demain.
Paul Oud, ça mène.